Bonjour Constantin.
Bonjour Claire, bonjour à tous.
Comment allez-vous?
Eh bien écoutez, ça va très bien.
Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition donc de France catholique qui s'avère être encore très très riche d'enseignements pour nos auditeurs lecteurs. Donc nous allons commencer cette nouvelle revue commentée donc avec de l'actualité, à savoir la proposition de loi légalisant l'euthanasie et le suicide assisté qui se précise.
Oui, France catholique avait déjà consacré un dossier sur l'euthanasie et notamment sur la Convention citoyenne sur la fin de vie il y a quelques semaines pour expliquer, pour craindre que la démarche était cousue de fil blanc. Et voilà que les choses se confirment et se précisent, comme vous venez de le dire, avec cette proposition de loi qui se dessine, une proposition de loi pour légaliser l'euthanasie et le suicide assisté, une proposition de loi qui serait portée par Agnès Firmin-Le Bodo, qui est ministre délégué chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé. Alors, il faut bien préciser, insister sur le fait que c'est elle qui porte cette proposition de loi hein, pour cette aide active à mourir, qui, on le rappelle, est un terme global qui camoufle en vérité non seulement l'euthanasie, c'est-à-dire le fait qu'un médecin, qu'un personnel soignant administre une substance létale à un malade, mais également le suicide assisté, où là, c'est le malade lui-même aidé quand même par une infirmière, par exemple, c'est à ce moment-là le malade lui-même qui se suicide. Bref, que cette proposition de loi, on pourrait s'attendre à ce que ce soit l'apanage, un peu logiquement, du ministre de la Santé, qui est François Braun. Or, ce dernier n'y est pas favorable et Emmanuel Macron s'est donc rabattu sur Agnès Firmin-Le Bodo, qui, elle, s'est montrée favorable, ce qui démontre bien que pour que le gouvernement, j'allais dire, ne fasse pas passer cette proposition de loi par le ministre de la Santé, mais par la ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, montre bien que le gouvernement veut absolument faire passer cette légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Alors, il y a dans cette proposition de loi des garde-fous qui sont censés rassurer les opposants à cette légalisation de l'aide active à mourir. Il y a par exemple le fait que le pronostic vital devra être engagé à moyen terme. Il faudra que le malade ait son discernement intact. Mais relève Véronique Jacquier, qui signe cette semaine le papier d'actualité consacré à cette proposition de loi, comment définir cette notion de moyen terme dès lors qu'il s'agit d'un pronostic vital? Et est-ce que ces garde-fous imaginés ne seraient-ils pas tout simplement faits pour amadouer ceux qui seraient choqués par le permis de tuer que représentent l'euthanasie et le suicide assisté? Alors, des interrogations d'autant plus fortes que la loi actera aussi le développement des soins palliatifs, ce qui est assez surprenant, puisque d'un côté, il s'agirait de légaliser le fait de donner la mort, de l'autre, il s'agirait d'accompagner la souffrance et la vie jusqu'au bout. Derrière la contradiction, il y a sans doute une habileté politique, puisque les députés hostiles à l'euthanasie et au suicide assisté seront peut-être tentés de voter malgré tout cette proposition de loi pour développer les soins palliatifs. Il s'agit donc, relève Véronique Jacquier, un en même temps, pour reprendre l'expression présidentielle et gouvernementale, un en même temps mortifère.
Merci Constantin déjà pour ces précieuses informations. Alors, au milieu de cette noirceur, France catholique consacre un dossier à une grande figure lumineuse de l'Église, à savoir Saint Thomas d'Aquin. Donc une occasion pour les lecteurs de redécouvrir cette grande figure que vous qualifiez même de phare pour la jeunesse. Alors comment peut-il parler aux jeunes aujourd'hui?
Alors, pour le savoir, nous avons tout simplement demandé aux jeunes eux-mêmes qu'est-ce qu'ils pouvaient trouver chez saint Thomas d'Aquin, et notamment aux jeunes qui suivent des formations thomistes. Nous avons braqué notre projecteur sur trois formations. D'abord, la formation du Centre Saint-Thomas à Paris, qui est conjointement organisée par des laïcs et par des religieux de la fraternité Saint-Vincent Ferrier. Nous sommes aussi attachés à présenter la formation de l'Institut Thomiste et aussi du Cap Sud Méditerranée, qui est cette fois-ci dans votre région de Radio Maria. qui est une formation globale, anthropologique, mais qui propose notamment des cours de formation thomiste. Alors, ce que Saint Thomas apporte à tous ceux qui l'étudient, et notamment aux jeunes, il apporte, on va dire, trois éléments. D'abord, il apporte de l'ordre dans une société troublée et mouvante, et de l'ordre notamment par la démarche thomiste qui s'appuie sur la notion de vérité. Cette notion de vérité définie par saint Thomas d'Aquin en tant qu'adéquation de l'intelligence et du réel. Pour essayer de dire ça un peu plus clairement, cet ordre qui se fonde sur la vérité, saint Thomas d'Aquin le construit en s'appuyant sur une méthode qui lui est vraiment propre, qui est la méthode éprouvée notamment dans la Somme théologique, qui est vraiment l'ouvrage, on va dire, le plus connu de saint Thomas d'Aquin, qui est un ouvrage en nombreux volumes et qui aborde toute une batterie de questions sur la foi. Et saint Thomas d'Aquin procède toujours de la même façon. Il pose une question, par exemple la question Dieu est-il partout? Il énumère et il développe les objections. Il répond à ces objections et il propose une solution à la question posée en premier lieu. C'est donc une démarche rigoureuse et exigeante. À l'opposé, nous expliquent les jeunes que nous avons interviewés et les professeurs de philosophie thomiste, à l'opposé du relativisme actuel qui veut qu'il y ait un peu de vérité un peu partout et que toutes les opinions, en tout cas un certain nombre d'opinions, se valent. Il y a donc cet ordre apporté dans une société troublée, mais il y a aussi une démarche intellectuelle qui vient se saisir des questions de foi. Et on en revient là encore à la méthode thomiste. En partant des objections, saint Thomas d'Aquin vient rejoindre les doutes qu'on peut notamment avoir quand on est jeune, quand on a entre 18, 25, 18 et 30 ans, les doutes de la foi. Saint Thomas d'Aquin vient rejoindre ces doutes, mais pour les développer, mais pour mieux exposer la foi catholique et pour mieux répondre et balayer ces doutes. Il ne repousse pas d'un revers de la main les contradictions que tout croyant peut rencontrer dans sa vie de foi, mais il va développer ces contradictions mieux d'ailleurs que les contradicteurs eux-mêmes, mais afin de mieux les réfuter par la suite. Et il y a là, nous dit notamment Benoît Dumoulin, qui est le directeur de l'Institut Capsule Méditerranée, il y a là une démarche qui est un antidote à la tentation spiritualiste qui règne parfois dans l'Église et qui consiste à vouloir tout spiritualiser en négligeant la raison. Saint Thomas d'Aquin permet donc d'apaiser les jeunes qui sont en proie aux doutes et qui permet aussi de muscler leur foi, foi et raison, hein, qui sont les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité, disait saint Jean-Paul II. Eh bien, la foi et raison, c'est vraiment l'alliance que recherche saint Thomas d'Aquin. Et puis enfin, il y a aussi la foi, la piété, et ça, on peut l'oublier quand on parle de saint Thomas d'Aquin. On peut avoir tendance à ne voir que le monstre d'intelligence et de rigueur, mais saint Thomas d'Aquin a aussi écrit de très belles choses, notamment dans les sermons qu'il faisait sur le Credo, sur le Notre Père, sur l'Eucharistie aussi. Hein. On peut oublier que saint Thomas d'Aquin, parmi ses différents titres, il est aussi le docteur eucharistique, et plusieurs jeunes nous ont confié que, bien dans cette formation thomiste, en plus de l'ordre, de la rigueur, de l'intelligence, de la foi, ils ont aussi découvert une très belle piété eucharistique. C'est vraiment les grands axes qui servent à éclairer la jeunesse catholique qui aujourd'hui s'intéresse au thomisme.
Justement, c'est très intéressant, Constantin, d'avoir fait cette démarche auprès des jeunes. Je trouve que c'est même réconfortant. Je me permets juste de poser une petite question pour rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant. Donc, saint Thomas d'Aquin en tant que docteur eucharistique. Dans France catholique, il y a également un article par rapport aux futurs prêtres. Et en quoi justement saint Thomas d'Aquin peut être aussi un maître et un guide dans les séminaires. Est-ce que vous pourriez juste nous dire quelques mots, en fait, pour rebondir par rapport à ce que vous venez de dire en tant que docteur eucharistique?
Oui, Saint Thomas d'Aquin, pendant des siècles, a vraiment été l'armature intellectuelle sur laquelle se reposaient tous les futurs prêtres. Pour plusieurs raisons. D'abord, pour bon, tout ce qu'on vient d'évoquer, hein, pour la rigueur intellectuelle, on peut également dire que ben, dès lors quand on se penche dans les écrits de Saint Thomas d'Aquin, on s'aperçoit que Saint Thomas cite énormément les Écritures et les pères de l'Église. Donc en fait, quand on étudie Saint Thomas d'Aquin, on étudie l'intelligence de Saint Thomas d'Aquin, mais on se nourrit également de la parole de Dieu et on se nourrit également de tout ce qu'on peut dire les pères de l'Église. Donc il y a un côté un peu tout en un chez Saint Thomas d'Aquin qui est extrêmement séduisant et extrêmement pratique pour les futurs prêtres. Alors on explique, et on raconte effectivement dans France catholique un peu la trajectoire de Saint Thomas d'Aquin dans les séminaires. On relève que à la suite des années 60, bien Saint Thomas d'Aquin était un peu rangé dans le purgatoire, si l'on peut dire, des séminaires, où on a préféré des philosophes et des théologiens plus modernes. Néanmoins, comme nous le disait d'ailleurs un des jeunes que nous avons interviewé, Saint Thomas d'Aquin, c'est un peu l'un des seuls qui résiste une fois que toutes les idoles des années 60 et 70 sont tombées. Il reste ce phare de Saint Thomas d'Aquin. Et il faut dire que Saint Thomas d'Aquin avait un peu disparu, alors même que, notamment, enfin, dans un décret que Rome avait publié. En 65, dans la foulée de, enfin en plein Vatican II, il était bien rappelé que saint Thomas d'Aquin restait un modèle pour les séminaristes. Et pourtant, voilà, saint Thomas d'Aquin était un peu oublié. Et aujourd'hui, il est peu à peu redécouvert. Alors, il y a certaines communautés qui n'avaient jamais abandonné saint Thomas d'Aquin. Il faut souligner que, par exemple, chez les communautés dites traditionnalistes, saint Thomas d'Aquin n'avait jamais disparu. Mais il faut aussi citer par exemple la communauté Saint-Martin, qui est très implantée dans les diocèses français. La communauté Saint-Martin, dès ses débuts, s'était très attachée à la figure de saint Thomas d'Aquin. Voilà, donc il y avait, quand saint Thomas d'Aquin avait un peu quitté le paysage des séminaires, il y avait certains îlots qui continuaient d'entretenir, on va dire, la flamme thomiste. Et aujourd'hui, eh bien, saint Thomas d'Aquin reprend pied dans les séminaires et on ne peut que s'en réjouir pour ce que ça apporte d'ordre, d'intelligence et de foi aussi chez tous les futurs prêtres de France.
Alors nous poursuivons justement sur l'héritage de saint Thomas d'Aquin, donc notamment parmi ses différents ouvrages. Donc nous connaissons bien la somme théologique, mais peut-être qu'on a un peu oublié son premier traité sur les vertus. Alors que devons-nous retenir de ce texte?
Alors, j'ai essayé de faire un résumé très rapide. Vous aurez bien compris, et mes auditeurs ont aussi bien compris, que voilà, ce numéro de France Catholique, qui est largement consacré à saint Thomas d'Aquin, ne fait qu'effleurer la pensée de saint Thomas d'Aquin, tant elle est immense. Néanmoins, effectivement, nous avons voulu mettre un coup de projecteur sur ce traité sur les vertus en interviewant Aude Dugas, qui est philosophe et qui est justement auteur d'un livre qui s'appelle La Ronde des vertus, qui est publié chez Salvator, et qui aborde cette question des vertus chez saint Thomas d'Aquin. La vertu, c'est la disposition habituelle et ferme à faire du bien. Il y a plusieurs types de vertus. Vous avez les vertus théologales, cardinales, mineures, et pour être très concret, ce qu'on appelle vertu, c'est par exemple la foi, l'espérance, la charité, la prudence, la tempérance, l'humilité ou encore la chasteté. Ce qu'il faut retenir, c'est que saint Thomas d'Aquin va affirmer le lien entre le bonheur et la vérité, et que ce lien entre bonheur et vérité se fait par le truchement des vertus. Pour résumer, l'homme, dit saint Thomas d'Aquin, ne peut être qu'heureux eh bien qu'en adhérant à la vérité. Or, les vertus conduisent à la vérité puisqu'elles s'attachent à ce qui est raisonnable. En effet, la vertu n'est jamais irrationnelle. La vertu se situe, si vous voulez, entre l'excès et le manque. La vertu, c'est la juste mesure. Dès lors, adopter les vertus chrétiennes comme ligne de conduite, c'est vivre de manière raisonnable et c'est donc immanquablement vivre dans la vérité et donc vivre dans le bonheur, vivre dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, dans la prudence, dans la tempérance, dans l'humilité, dans la chasteté, c'est vivre une existence réglée, ajustée, raisonnable, qui rende heureux, puisque c'est vivre une existence qui est dans la vérité. On peut rappeler, c'est ce que rappelle Hauducà, que pour saint Thomas d'Aquin, la plus grande des vertus, c'est la vertu de charité, c'est-à-dire aimer Dieu et aimer les autres pour Dieu. Alors, la question qui se pose immanquablement, c'est comment éduquer aux vertus. Alors, nous dit Hauducà, eh bien, il faut donner le goût du bien, le goût du vrai, du beau, pour que la personne puisse décider de poser des actes bons allant dans ce sens, poser des actes afin que la personne comprenne que l'inclination au bien est dans sa propre nature et qu'elle est la clé du bonheur. Hein. Voilà en quelques mots ce que saint Thomas d'Aquin disait des vertus, mais je précise à nouveau que c'est un très bref résumé du contenu que nous proposons dans ce numéro de France catholique, qui n'est lui-même qu'un bref résumé de la pensée immense de saint Thomas d'Aquin, qui est, rappelons-le, le docteur des docteurs de l'Église. C'est dire hein, que c'est une figure énorme qui jouera, à n'en pas douter, un grand rôle dans les années qui viennent.
Merci beaucoup, Constantin. Et donc, pour terminer, France catholique continue sa série sur les rois de France. Alors, cette semaine, il s'agit de François Ier. Qu'avons-nous à redécouvrir chez ce roi ?
Eh bien, c'est l'esprit de, sans doute l'esprit de chevalerie, notamment hein, pour François Ier, qui est assurément l'un des rois de France les plus connus. On connaît, on a des souvenirs d'école, hein, que François Ier, c'est Marignan, donc c'est 1515, donc on arrive souvent à bien situer François Ier au XVIe siècle. Mais on oublie peut-être que François Ier, c'était vraiment l'esprit de chevalerie. C'est le roi chevalier parce qu'il s'est battu en tête de ses troupes à Marignan en 1515, vraiment aux côtés de ses soldats. C'est le roi chevalier qui était adoubé justement en tant que tel au soir de la bataille de Marignan par le chevalier Bayard, qui était le chevalier sans peur et sans reproche. Alors, ce qui est passionnant chez François Ier, c'est ce que raconte Jacques Trémollet de Villers dans sa chronique de cette semaine, c'est que le roi François Ier est à la charnière de deux époques, celle de la chevalerie donc, mais aussi l'époque qui arrive de son vivant, qui est l'époque de la Renaissance, et c'est à François Ier notamment que l'on doit, c'est à François Ier exclusivement que l'on doit la présence par exemple de Léonard de Vinci en France, c'est à lui aussi que l'on doit, qui a inauguré les châteaux de la Loire, qui est le chef-d'œuvre du patrimoine de notre pays. Et puis, rappelle Jacques Trémollet de Villers, François Ier avait aussi un sens du contact avec les plus humbles du royaume. Bref, pour résumer, c'était à la fois un roi chevalier, bâtisseur, qui avait à cœur, là aussi, le bien, le beau, avec les châteaux de la Loire et l'œuvre de Léonard de Vinci, et puis aussi le contact avec les plus humbles de son royaume. Voilà quelques pistes qui peuvent, là encore, servir aux dirigeants de notre pays. Si, même s'il n'y a plus de bataille aujourd'hui comme à Marignan, nul doute que l'esprit de chevalerie peut toujours être mis en pratique et doit être mis en pratique aujourd'hui.
Merci beaucoup, Constantin. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Je rappelle aux auditeurs le site de France Catholique, www.france-catholique.fr. Vous pouvez également suivre France Catholique sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter. Un grand merci, Constantin, pour ce temps passé avec nous.
Eh bien, merci Claire, et puis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, merci à vous.
Chers auditeurs, c'était France Catholique, la revue commentée. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.